Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Boris Johnson se dit prêt à la confrontation avec le Parlement britannique. Le Premier ministre affrontera aujourd'hui une motion déposée contre lui et contre l'idée d'un Brexit dur. Nous irons à Londres dans un instant, puis vous comprendrez comment Bercy, en France, va préparer les entreprises au risque de non-accord.
Nous reviendrons ensuite sur le débat du matin sur France Culture, comment lutter contre les violences faites aux femmes. Un Grenelle débute aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'exemple espagnol qui fonctionne.
Dans cette édition encore, notre correspondante à Kaboul nous en dira plus sur l'accord trouvé hier entre les Américains et les talibans afghans. Il semble loin d'être respecté.
Et puis, dans un quart d'heure, le billet politique signé Frédéric Seitz. Il est consacré ce matin à la droite dispersée façon puzzle.
Combien de folles semaines sur le Brexit? En voici une nouvelle et un bras de fer inédit avec le Premier ministre Boris Johnson. Des députés fourbissent leurs armes pour éviter une sortie sans accord de l'Union européenne dans moins de 2 mois, le 31 octobre prochain. Ils ont déposé une motion contre le gouvernement conservateur. Elle sera débattue à partir d'aujourd'hui au Parlement britannique. Chacun jusque-là a tenté de convaincre ses confrères, Marie-Pierre Véraud.
Durant tout le week-end, les téléphones ont chauffé de retour de leur circonscription. Plusieurs députés le confient, travaillistes, libéraux-démocrates et même quelques conservateurs hostiles à Boris Johnson ont multiplié les échanges par WhatsApp pour mettre au point leur contre-offensive avec un objectif, rappelle le député de Cambridge, Daniel Zeichner,
stop a no-deal Brexit.
Empêcher une sortie sans accord. Comment ? Faute d'arrangement avec Bruxelles d'ici le 19 octobre, un nouveau report du Brexit devrait être demandé. Et le texte devrait passer, assure le député travailliste Justin Maddows.
Nous avons le nombre de députés. Bien sûr, nous avons entendu le Premier ministre dire devant le 10 Downing Street qu'il mènerait la vie dure aux députés conservateurs qui ne le soutiendraient pas. Mais un certain nombre d'entre eux ont compris qu'une sortie sans accord serait un véritable désastre. Ils mettront de côté leur loyauté envers leur parti pour voter avec nous et empêcher un no deal.
Un casus belli pour Boris Johnson qui juge que cela l'affaiblirait dans ses négociations avec Bruxelles. Alors dit-il qu'elles commencent à porter leurs fruits. Ce qui fait sourire le député libéral-démocrate Tom Brake.
Ça me fait rire parce que j'ai regardé pour voir quelles démarches ont été prises. Et depuis juin, il n'y a presque rien. Il y a eu 2 contacts par téléphone entre Boris Johnson et Jean-Claude Juncker. Il y a eu David Frost, le négociateur du gouvernement qui est allé à Bruxelles la semaine dernière. Et à part ça, il n'y a rien eu.
Boris Johnson qui menace à présent les députés d'élections anticipées. La partie de poker menteur ne fait que continuer.
Et pendant ce temps, l'économie reste fébrile face à l'incertitude. C'était le cas au printemps dernier, avant un Brexit finalement repoussé. Rebelote cette fois face à un risque jamais atteint de Brexit dur. C'est pour cela qu'en France, le gouvernement convoque cet après-midi des entreprises. Il veut enclencher une préparation express à Anne-Laure Jumet.
Le contexte a changé, explique-t-on à Bercy. Depuis l'arrivée aux affaires de Boris Johnson, l'hypothèse d'un no deal est de plus en plus probable. Les 100 000 entreprises françaises qui commercent avec le Royaume-Uni doivent donc se préparer. Pas d'inquiétude du côté des grands groupes qui ont a priori déjà pris les mesures qui s'imposent. Pour ce qui est des PME, en revanche, le ministère de l'économie craint une forme de déni. Et le temps presse, d'autant qu'elles sont nombreuses à ne pas avoir l'expérience de travailler avec un pays non européen. Pour éviter d'être pris de court, il y aura une sorte de répétition générale pendant un mois. On va faire comme s'il y avait le Brexit, explique le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, en charge des douanes. L'occasion de tester, entre la mi-septembre et la mi-octobre, la frontière intelligente mise en place des 2 côtés de la Manche. Une procédure accélérée pour éviter les longues files d'attente, que ce soit dans le tunnel ou au port de Calais. Le transporteur pourra faire sa déclaration sur Internet, ce qui facilitera le transit des marchandises via un système de code-barre et de lecture de la plaque d'immatriculation. En cas de doute, seulement il y aura des contrôles. Gérald Darmanin rencontrera dans les jours qui viennent les responsables régionaux des douanes pour faire le point. 700 douaniers supplémentaires ont été recrutés pour faire face à cette échéance. Mais du côté des syndicats, on estime l'effort insuffisant, alors même que l'impact d'un Brexit dur reste difficile à évaluer.
Une perspective qui met les douanes françaises sous pression, preuve en est la semaine dernière. Le directeur général des douanes a été congédié par le gouvernement après un long mouvement de grève au printemps dernier. 101 femmes sont mortes depuis le 1er janvier dernier en France sous les coups de leur conjoint ou de leur ancien compagnon. C'est quasiment un meurtre tous les deux jours. Dernier en date, c'était avant-hier dans le Tarn. Une femme de 92 ans a été rouée de coups par son mari, âgé de 94 ans. Pour lutter contre ces violences, trop nombreuses, trop souvent ignorées, le gouvernement lance aujourd'hui un Grenelle, un rendez-vous interdisciplinaire qui va durer 3 mois autour de plusieurs ministres, à l'intérieur, à la justice, à la santé, à l'éducation. Plusieurs associations ont été conviées également, et notamment la Fondation des Femmes. Sa présidente, Anne-Cécile Maillefer, évoque la nécessité de ce qu'elle appelle un plan Marshall, c'est-à-dire bien plus que le million d'euros promis par le gouvernement.
On demande au minimum 500 millions, le milliard si possible, et ça, ce sera décliné par ministère. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de moyens dans les commissariats, qu'il y ait des protocoles d'accueil qui soient mis en place dès qu'une victime rentre. Par exemple, si elle est identifiée comme étant victime de violence conjugale, il faut absolument qu'il y ait certaines questions qui doivent être posées, et que s'il y a une évaluation du danger qui est faite, qu'il y a un danger immédiat qui est montré, il faut que tous les moyens soient mis en place pour la protéger. Ensuite, au niveau de la justice, à voir si ça doit aller jusqu'à des tribunaux spécialisés, mais ne serait-ce que des parquets référents, par exemple, qu'on coordonne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand une femme elle est mariée, qu'elle a des enfants et qu'elle est victime de violences conjugales, elle va être trimballée entre plusieurs juges, plusieurs procédures. Et derrière, c'est très compliqué. On a des décisions qui ne sont pas du tout rendues de manière cohérente. C'est-à-dire qu'on va avoir une décision sur les violences conjugales rendue bien après la décision sur la garde des enfants, par exemple. Or, quand même, l'un dépend de l'autre. Et puis, au niveau de l'éducation, il faut que dans toutes les écoles, il puisse y avoir des choses qui soient dites et de la sensibilisation qui soit faite, parce qu'on sait que ça part de là. Et enfin, les hébergements. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'hébergements d'urgence spécialisée pour les femmes victimes de violences. On en demande 2000 de plus, c'est quand même pas la mer à boire. Donc ça fait partie par exemple des choses sur lesquelles on va être très attentive sur les annonces qui pourront être faites.
Voilà pour les attentes. Peuvent-elles maintenant se concrétiser ? C'est possible si l'on regarde ce qu'il s'est passé en Espagne. Le nombre de féminicides a été divisé par 2 en 15 ans grâce notamment à un système informatique unique, Viogen. Il assure le suivi des victimes. 2000 fonctionnaires y travaillent en Espagne. Présent signée ce matin, Marie-Hélène Ballestero.
Cela fait 12 ans que Viogen a vu le jour en Espagne, un système pionnier qui permet le suivi intégral des cas de violence de genre. Mais concrètement, comment fonctionne-t-il ? Marina Rodriguez, à la tête du département des violences de genre, revient sur ce dispositif rattaché au ministère de l'Intérieur.
Dès que tu portes plainte, tu rentres dans le système Viogen. On évalue alors le risque que cette femme soit à nouveau victime de cet agresseur. En fonction de cette évaluation, qui détermine 5 niveaux, pas de risque observé, faible, moyen, élevé ou extrême, on va appliquer différentes mesures de protection policière. Les cas dits actifs ou en cours et qui bénéficient de protection s'élèvent à environ 60 000 par an.
La clé de voûte de Viogen, c'est l'évaluation policière du risque. Depuis ses débuts, ce système n'a cessé de se perfectionner afin de lutter toujours mieux contre la violence machiste, comme l'explique Juan José López, responsable du département études.
Le système Viogen permet non seulement de rechercher ou extraire des données statistiques ou épidémiologiques, mais en plus, il inclut les différentes institutions qui ont des responsabilités en matière de violence de genre. C'est un grand cerveau qui permet d'intégrer toutes ces informations et surtout d'apporter des résultats concrets. Plus les policiers sauront dans quelle situation se trouvent les victimes, mieux ils pourront les protéger.
Outil informatique unique en son genre, Viogen centralise toute l'information relative aux cas de violence machiste et peut être consulté et complété en temps réel par tous les acteurs qui luttent contre ce fléau. Policiers, juges, services sociaux ou encore procureurs. Une action conjointe qui porte ses fruits. Le taux de récidive a baissé d'environ 63%.
Et le nombre de féminicides y est l'un des plus bas d'Europe, avec 47 meurtres l'année dernière contre par exemple 121 en France. Comment faire face aux violences envers les femmes ? Nous reprenons la discussion avec nos invités des Matins de France Culture après cette édition. Et vous pourrez également découvrir notre article sur internet, sur notre site franceculture.fr, article qui interroge le terme féminicide. Il ne fait pas partie du code pénal. Le suspect dans l'attaque au couteau de Villeurbanne samedi a été mis en examen hier soir. Il est poursuivi pour assassinat et tentative d'assassinat. Cet Afghan, aux troubles psychologiques, a tué un jeune homme de 19 ans. Il a blessé également 8 autres personnes. En bref encore, et face à un mouvement de grève qui se renforce dans les services d'urgence publique, la ministre de la Santé annonce des mesures pour désengorger ces urgences. Les infirmiers pourront désormais y réaliser certains actes, comme les points de suture ou la prescription de radio. Une filière spéciale sera également mise en place pour hospitaliser les personnes âgées sans passer par les urgences. Le reportage de la rédaction était consacré ce matin aux professionnels de santé. Il est à retrouver sur franceculture.fr.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Un attentat a fait 16 morts et une centaine de blessés hier après-midi à Kaboul.
Oui, et cela malgré l'accord trouvé quelques heures plus tôt entre les talibans afghans et les Américains. Ils visent à sortir du conflit en Afghanistan. Les États-Unis se sont notamment engagés dans cet accord à retirer leurs forces de 5 bases militaires. Sonia Ghezali.
Plus de 5000 soldats américains sur les 14000 déployés quitteront le sol afghan dans les 20 semaines qui suivront la signature de l'accord. Le retrait des troupes se poursuivra de façon progressive à la condition que les talibans respectent leurs engagements, dont celui de combattre le terrorisme sur son sol. Le groupe d'insurgés s'engage ainsi à couper tout lien avec Al-Qaïda. C'est le contenu de l'accord de principe auquel sont parvenus talibans et américains réunis à Doha au Qatar pour le 9e round des discussions. Cela fait 10 mois que les deux parties sont engagées dans des négociations sans la présence d'aucun représentant du gouvernement afghan. Celui-ci a eu connaissance de l'accord de principe, a indiqué l'émissaire américain, qui affirme que des négociations intra-afghanes commenceront dès la signature de l'accord après validation du président américain. Celle-ci pourrait avoir lieu à Oslo, la capitale norvégienne. À Kaboul, le porte-parole d'Ashraf Ghani a déclaré qu'il était très difficile de faire confiance aux talibans. Quelques heures plus tard, la capitale afghane était secouée par une énorme explosion. Un camion-citerne de carburant sur lequel était posée une bombe a explosé près d'un complexe fortifié où résident des étrangers. Les envahisseurs et leurs mercenaires étaient visés, écrit l'un des porte-paroles des talibans sur son compte Twitter en revendiquant l'attaque. Le complexe avait déjà été pris pour cible en janvier dernier. 4 personnes avaient été tuées, plus de 90 autres blessées. Avant cela, le complexe avait été attaqué en 2003, en 2012 et en 2014. Chaque attaque avait été revendiquée par les talibans.
Sonia Ghezali, correspondante de RFI à Kaboul pour France Culture. Le chef du Hezbollah libanais assure que son mouvement n'a plus de ligne rouge dans sa confrontation avec Israël. Avant-hier, une attaque de missiles anti-chars menée dans le nord d'Israël avait provoqué une réplique de l'État hébreu, touchant cette fois le sud du Liban. Israël, où à 2 semaines des élections législatives, le Premier ministre sortant multiplie les critiques envers les médias. Benjamin Netanyahou cible notamment la chaîne Channel 12, la plus populaire dans le pays. Il prend en ce moment le prétexte d'une série qui vient de sortir, Frédéric Mettezo.
Avec la chaîne américaine HBO, Channel 12 a coproduit la série Our Boys, Nos Garçons, 10 épisodes. Il y a 5 ans, en Cisjordanie, le Hamas enlève et tue 3 jeunes juifs. Un mois plus tard, en représailles, des colons assassinent un adolescent arabe de Jérusalem-Est. La série raconte l'enquête sur cet enlèvement-là, ce qui déplaît à Benjamin Netanyahou.
La moitié d'un épisode raconte le meurtre tragique de 3 garçons juifs, explique le Premier ministre. Et puis un autre meurtre tragique, celui d'un garçon arabe, occupe tout le reste de la série qui calomnie Israël. Je ne suis pas surpris, poursuit Netanyahou, car je suis habitué à leur calomnie. Car Benjamin Netanyahou en veut aussi à un journaliste de Channel 12 qui a révélé plusieurs faits présumés de corruption. Netanyahou l'accuse d'être une marionnette de ses actionnaires qui préparent un attentat contre la démocratie. Menacé sur les réseaux sociaux, le journaliste vit désormais sous protection rapprochée. Véritable bête de médias, Benjamin Netanyahou n'en est pas moins méfiant avec la presse. Il préfère largement les messages par Twitter et Facebook aux interviews face à des journalistes. Et il y a 2 ans, il avait brutalement réformé l'audiovisuel public. Sans le nommer, mais très clairement, le président israélien, également Likoud, mais critique de Netanyahou, a dénoncé les discours méprisables, l'incitation à la haine et les insultes.
Frédéric Mettezo, correspondant de France Culture à Jérusalem. L'ouragan Dorian s'acharne sur les Bahamas. Il stagne en ce moment au-dessus de l'archipel. Son passage a déjà fait au moins 5 morts. En revanche, rétrogradé en catégorie 3, il devrait finalement éviter la Floride aux États-Unis. En bref, encore cette annulation. Le président brésilien Jair Bolsonaro n'ira pas au sommet régional sur l'Amazonie. Il est prévu vendredi en Colombie. Jair Bolsonaro évoque des raisons médicales alors que la forêt amazonienne est toujours en proie à de nombreux et violents incendies. Nous revenons maintenant en France pour quelques mots de la météo de ce mardi qui débute. Et c'est assez simple, le soleil va briller partout. Avec ce matin 15 degrés à Rennes, 19 degrés à Paris et à Lille, 20 à Strasbourg et La Rochelle, comptez 22 degrés à Lyon et 28 à Marseille, entre 24 et 31 degrés cet après-midi du nord au sud.